Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Partageons les couleurs et les différences.
Voir, entendre,
sentir,
toucher.
Regarde ailleurs. Partageons les couleurs et les différences.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Marion, donc à 16 ans, tu te retrouves dans les rues de Calcutta à expérimenter, à découvrir, à ressentir, à vivre l'extrême pauvreté. Voyage qui va changer ta perception du monde, suite à quoi tu as cette envie donc de faire ce voyage intérieur, de trouver un maître que tu trouves en la personne de Bokar Rinpoche. 4 ans de vie monastique, si j'ai bien suivi, au Darjeeling, avant d'avoir ce message qui est celui d'aller au Tibet. Comment ça se passe? Qu'est-ce que tu vas faire au Tibet? Comment s'est passé ce départ dans ce pays? Quelle est l'image que tu avais de ce pays qui peut être aussi assez mythique et mystique pour l'esprit de beaucoup? Donc est-ce que toi aussi tu nourrissais cette envie d'aller sur le toit du monde? Quelle est l'image que tu avais? Comment tu as vécu cette forme de mission qui t'a été donnée?
Alors j'avais pas du tout à aller au Tibet, j'avais pas du tout envie. Ma première expérience était avec des journalistes allemand qui faisait un reportage sur le destin des familles tibétaines qui se retrouvent divisées d'un côté et de l'autre de l'Himalaya, ceux qui restent au Tibet, à Lhasa notamment, on a été les rencontrer, et ceux qui sont partis en exil en Inde ou ailleurs dans le monde. Et donc je me retrouve à Lhasa, à ce moment-là, j'ai pas encore fait ce grand départ du monastère, mais c'est la première fois où je pose les pieds sur la terre du Tibet, et je ressens en fait toute le paradoxe de l'immensité et la luminosité des paysages et la terre du Tibet, qui est un espace grand ouvert dans lequel peut se fondre l'esprit et qui en même temps reconnaît sa lumière. C'est pas un esprit vide, c'est un esprit plein de cette lumière. Le paradoxe, c'est que je ressens aussi toute la souffrance de ce peuple et aussi de la terre du Tibet qui est en pleine transition avec des constructions, des chantiers immenses en fait, de construction de villes, d'industries, de routes, de voies ferrées, de mines, enfin de toutes sortes de choses qui en fait détruisent une partie de la terre. C'est assez complexe hein, de comprendre comment un peuple vit dans des conditions de colonisation. Donc ça, là-dessus, je reste encore assez pudique sur mon expérience là-dessus, même si voilà, je l'ai ressenti de plein fouet. D'une grande violence intérieure aussi, de me sentir comme ligotée, emprisonnée, avec la capacité d'exprimer vraiment ce que je ressentais, voilà, comme une grande prison au ciel ouvert.
Qu'est-ce que tu allais faire au Tibet? Donc, quelle était cette mission? Quelle était l'intention?
Alors là, à ce moment-là, donc, c'était avec des journalistes, mais ça a duré qu'une semaine, mais c'était déjà une expérience très marquante. Et après, quelques mois plus tard, là, je fais le grand saut dans l'inconnu, c'est-à-dire que je pars du monastère de Bokar Rinpoche en Inde et je vais m'installer à Lhasa pour commencer en fait mettre en place le projet d'accompagnement des populations nomades, donc du Grand Ouest tibétain, c'est-à-dire une région où il y a eu encore très peu de modernisation. Il y a peu de routes, c'était en 2002. L'idée, c'est de soutenir des réseaux déjà existants, en fait, d'écoles soit publiques, soit d'écoles privées de médecine traditionnelle tibétaine, pour aider les médecins tibétains, en fait, à recevoir un diplôme gouvernemental à Lhasa, pour ensuite pouvoir retourner dans leur village, dans le Grand Ouest tibétain de Ngari, côté du mont Kailash, et pouvoir recevoir tous les populations qui n'ont pas accès aux soins de santé publique. Et donc d'avoir des petits dispensaires, en fait, on construisait des petits dispensaires un peu partout là où il n'y avait pas de, d'hôpitaux. Et puis au niveau de l'éducation aussi, mettre plus de l'accent sur la formation professionnelle, parce que les nomades tibétains qui étaient plus ou moins forcés à aller à l'école, hein, ils le sont au final, ils ont du mal à rentrer en fait dans un cursus de scolaire classique qui finalement débouchera sur des métiers qui n'ont aucun intérêt dans leur mode de vie traditionnel, hein, de l'élevage. Donc de toute façon, pour eux, c'était plus intéressant d'avoir des formations professionnelles pour travailler le bois, travailler le fer, enfin voilà, devenir artisan, travailler le cuir. Et donc ouais, on a monté aussi des projets d'éducation professionnelle. Et donc ça a été pendant 5-6 ans, voilà, la raison principale pour laquelle je restais au Tibet. J'étais étudiante à l'université. J'ai réussi à peu près à me débrouiller dans les méandres de l'administration pour comprendre comment rester résidente à l'année. Parce que là, en fait, depuis 2002 jusqu'à 2019, fin 2019, début 2020, j'ai plus quitté le Tibet. Donc ça veut dire que je suis restée résidente 18 ans.
Avant de te poser cette question de comment tu as fait pour y rester aussi longtemps et de savoir pour qui tu travaillais, j'ai quand même envie de m'intéresser aussi aux nomades. Tu parles de nomades, donc là on va essayer de créer un peu une dimension visuelle pour l'auditeur. Donc on parle d'une population sur des plateaux tibétains entre 4 et 5 ou 6 000 mètres, je sais pas, dans un milieu très minéral. Nomade, j'imagine, parce que peut-être dépendant de l'animal, et peut-être à la recherche de pâturage. Quelle est la condition donc aujourd'hui encore sur cette planète, c'est ça qui est complètement incroyable. Là, on se parle dans un appartement au bord du lac Léman. On a du mal à imaginer que quelque part, tout là-haut, pas loin du ciel, pas loin des nuages, vivent encore des gens de manière nomade.
Ouais, c'est ça. En fait, j'avais monté une ONG qui s'appelait Highland Initiatives, et qui avait plus ou moins les accords au niveau de la région autonome du Tibet, mais à cette époque-là, c'était pas très difficile en fait de rester résident, et je travaillais en fait avec des réseaux de ONG qui étaient beaucoup plus gros, c'est beaucoup plus connu, donc je m'appuyais un petit peu sur leur existence légale. Et moi, je levais des fonds, en fait, avec Highland Initiatives pour ces populations de Ngari, de nomades, parce qu'elles, par contre, c'était les seules de tout le Tibet qui recevaient aucune aide des autres ONG. Donc, les nomades, ben oui, ils vivent entre 4 et 5 000, plutôt, ouais, 4 500 mètres d'altitude en moyenne, sur un immense plateau. Donc, en fait, il faut imaginer la chaîne de l'Himalaya qui part du nord de l'Inde, et qui traverse après donc toute la frontière entre l'Inde et le Népal jusqu'au Bhoutan, et qui va même jusque s'enfoncer vers la Birmanie. Et là, donc d'ailleurs, en fait, on appelle ça la grande ère culturelle tibétaine, birmo-tibétaine, parce que la langue tibétaine a ses racines dans toute cette zone. Et les nomades, donc, ils parlent des dialectes locaux. Ils sont pas tellement reliés au Tibet, on va dire, institué autour de Lhasa, avec la capitale, voilà, et les Dalai Lama. Ils sont autonomes. Ils vivent en autarcie, donc autour de leurs troupeaux, soit de moutons, soit de chèvres et de yaks. Parfois, ils perdent tous leurs animaux en un hiver parce qu'il y a des tempêtes de neige qui durent trop longtemps. Et en fait, les animaux ne meurent pas forcément de faim, mais plutôt de soif. Puis ils sont perdus, en fait. Ils errent, en fait. Il y a ces immenses territoires qui sont très, très peu habités. Les nomades, généralement, ils ont quelques petites maisons d'hiver qui sont construites en boue, en briques de boue séchées. Mais sinon, le reste du temps, en fait, ils ont des grandes tentes en poils de yak tissées et qui déplacent tous les 2-3 mois là où il y a les pâturages, donc pour que les troupeaux restent en bonne forme, en bonne santé. Et puis, ils protègent contre les animaux sauvages, qui peut y avoir la panthère des neiges éventuellement. Mais eux, finalement, leur vie, elle reste d'une simplicité et dans un dénuement et une et du coup une reliaison à eux-mêmes, dans leur corps, leurs sensations, est-ce qu'il fait chaud, est-ce qu'il fait froid, est-ce que j'ai faim, est-ce que j'ai soif. Et puis aussi donc ils sont très peu dans leur tête, dans leur mental ou leur projection sur le monde. Ils sont vraiment liés à la survie, c'est-à-dire comment je me sens maintenant et de quoi j'ai besoin. Ils sont reliés aussi au groupe, donc il y a une connexion à l'autre qui est très 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 importante. Ça fait partie aussi de la survie. Hein. Si la famille ou le clan de plusieurs familles réunies ensemble fonctionne bien, ils sont beaucoup plus forts entre eux. Ils fonctionnent vraiment sur ce principe d'interdépendance où c'est un lien avec la nature évidemment, mais aussi un lien avec les autres. C'est-à-dire que si je me comporte bien avec les autres en retour, ben je reçois que des bonnes choses. Donc il y a une forme de morale qui est pas du tout induite par la religion, mais plutôt par une sorte de connaissance innée, en fait une sagesse innée qui vient d'une compréhension que ce que je donne en retour, ça m'est rendu parce qu'il y a des liens d'interdépendance entre toutes choses. Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs. Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Quand on parle des populations nomades, est-ce qu'elles tendent à se sédentariser? Est-ce qu'il y a une volonté de les sédentariser aujourd'hui? Ou est-ce qu'ils sont toujours nomades comme ils l'ont été depuis des dizaines, des centaines, voire des milliers d'années?
Ah oui, là on parle vraiment de milliers d'années. En plus, c'est une civilisation qui, au départ, la civilisation tibétaine était principalement nomade. Donc plus de 80% de la population tibétaine était encore nomade, même au temps de la révolution culturelle en 1959. Et aujourd'hui, donc ils sont plus de 1 600 000. Et ils ont été largement, morts pendant la révolution culturelle, soit forcés à rejoindre des villes. Et aujourd'hui, ils sont dans une transition d'un mode de vie semi-nomade. C'est-à-dire qu'il y a souvent, en fait, des lieux de villages avec des maisons en dur qui les accueillent une partie de l'année. Et puis, les tentes en poils de yak tissé, les tentes noires, on en voit de moins en moins, en fait. Ils sont plutôt autour de leur maison.
Marion, tu te retrouves donc à 6 ans, c'est ça, sans quitter le Tibet, donc à travailler pour cette ONG et mettre en place des projets pour soutenir les populations nomades en termes de santé et d'éducation. Comment est-ce qu'on vit, comment est-ce qu'on reste au Tibet, alors que c'est quand même une région du monde assez sensible dans laquelle il est compliqué de s'y déplacer?
Alors ça reste toujours un grand point d'interrogation pour moi, c'est comment j'ai pu rester aussi longtemps en passant à travers tous ces filets là du système administratif qui est très très complexe, et en plus qui le devient de plus en plus au fil des années. Mais je crois que c'est une expérience en fait qui s'est acquise au fil des années, du temps où c'était encore relativement facile de vivre là, d'être résidente là-bas. J'ai développé un réseau d'amis, j'ai compris comment fonctionnait le système, et donc et après, ce qui s'est passé, c'est que j'ai une détermination qui est presque bornée, en fait. C'est-à-dire que même quand on me signifie que il n'y a plus du tout de possibilité pour rester comme là, c'était le cas même les dernières années où j'étais encore. Mais pour moi, ça c'est écho à rien. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on me disait ça que je capitulais. Donc, non, je suis restée. Et en fait, malgré tous ces discours qu'on m'a dit, enfin, qu'on m'a fait des années qui s'aggravaient, de dire que les étrangers n'étaient pas du tout bienvenus au Tibet, en fait, j'ai de très bonnes relations avec les autorités locales, avec le bureau de la montagne, avec la police, avec même des gouverneurs. Et parce que, je crois qu'ils ne savaient pas trop quoi faire de moi parce que j'étais là, donc il fallait bien faire quelque chose avec ça. Il m'appelait la mouche qu'ils n'arrivaient pas à tuer. Donc, bon, c'est pas très sympa, mais finalement, bon. Et donc, il y avait une forme de sympathie, en fait, qui a grandi envers le fait que je reste là. Je pense que le fait aussi que j'ai fait de la haute montagne, notamment sur les sommets de l'Everest, d'y aller régulièrement, et ça, ça a créé une sorte d'image en fait un peu voilà, maintenant on a notre occidental qui est là et qui sert un peu notre image de un peu extraordinaire, de quelqu'un voilà qui fait des choses hors du commun, et ça leur plaisait en fait. Ils pouvaient se mettre en avant, les autorités, par rapport à cette image. Donc il y a eu même des documentaires qui ont été faits sur moi en Chine où ils me montaient en icône. Et quelque part, ça m'a protégée. Mais moi, je rentrais pas du tout dans cette identification. Ça m'apportait rien en soi. Mais je savais que ça me protégerait parce que les gens me reconnaissaient. Et du coup, après, ben, une fois que je suis dans le décor, ben, je suis dans le décor, quoi. C'est indécrottable.
Donc là, Marion, tu es à Lhasa pendant plusieurs années. Tu apprends, j'imagine, le tibétain, sans doute aussi le mandarin, pour pouvoir communiquer avec les populations locales, les politiques. Tu es intégrée, tu es acceptée. Tu œuvres donc pour la cause tibétaine, ou en tout cas, non, plutôt tu œuvres pour les nomades du Tibet. Mais parallèlement à ça, tu fais de la montagne aussi. Ça, c'est l'étape d'après, et on en parlera dans cette émission. Tu as fondé une association Clean Everest, donc tu as créé un label Clean Everest, dont on parlera un peu plus tard. Donc, comment est-ce que tu en es venu déjà à faire de la haute montagne là-bas? Parce que le projet de base, c'était donc de répondre à cet appel hein, de Boka Rinpoche pour aller soutenir ou aider les populations nomades. Et comment est-ce que tu en viens à escalader l'Everest, qui est la plus haute montagne du monde? Parce qu'à la base, t'es pas forcément alpiniste.
Ouais, donc déjà, bon, je suis guide de trekking pour subvenir à mes besoins, parce que c'est le métier qui m'est le plus accessible. Donc je suis guide dans l'Himalaya, que ce soit au Ladakh, au Zanskar, au Bhoutan, au Népal, au Tibet.
Donc là, tu es guide, tu ne travailles pas pour l'ONG qui soutient les populations nomades. Tu as une autre activité professionnelle en même temps pour pouvoir subvenir à tes propres besoins.
Voilà, je sépare en fait les deux... ma mission sociale avec l'ONG qui ne me rémunère pas, et puis ma mission économique est d'être indépendante, autonome, et donc je travaille à peu près, peut-être 50-60 jours par an comme guide, hein. Et ça me suffit en fait pour subvenir à mes besoins toute l'année. Donc je travaille pour différentes agences de voyage, françaises, belges et suisses. Du coup, je me crée aussi un réseau d'amis guides, alors à la fois guides des trekking tibétains, mais aussi des guides de montagne. Et mais bon, la transition, elle vient plus tard en fait, vers la haute montagne. D'abord, je développe en 2008 à Hong Kong, au moment en fait où toutes les ONG sont invitées à partir du Tibet, parce qu'il y avait en fait un soulèvement des Tibétains en mars 2008 qui a été assez virulent. Et après, il y a eu une forte répression, d'abord militaire, puis policière. Et donc, il faut, à ce moment-là, qu'il n'y ait pas de parasitage à cette politique au Tibet. Donc, toute présence étrangère, on va dire, est quand même pas super accueillie, quoi. Voire même complètement interdite. Je sors du Tibet, mais très temporairement, parce qu'en fait, j'y reviens au bout de 3-4 mois. Mais j'y reviens en tant qu'entrepreneuse. Donc, je monte une agence de voyage qui s'appelle Global Nomad et qui va permettre de développer une nouvelle vision de développement qui, au Tibet, n'existait pas vraiment à l'époque des ONG, avant 2008, qui est en fait celle de l'entrepreneuriat. Donc des Tibétains dans les agences de voyage surtout, au milieu du tourisme, mais social, c'est-à-dire pour préserver la culture et l'environnement du Tibet. C'est tout simple, l'idée elle est basique, sauf qu'on part de quand même d'un milieu où il n'y avait pas tellement d'initiatives comme celle-ci à l'époque, donc il faut tout construire. Il faut former les Tibétains à devenir guides, pas simplement guides, voilà, pour transporter des permis administratifs pour aller d'un endroit à l'autre, mais plutôt des guides qui vont être capables de vraiment transmettre tous les principes bouddhistes et la culture tibétaine et la culture nomade et la culture paysanne. Et donc c'est beaucoup d'années de formation. C'est aussi tout un travail donc de chartes environnementales pour que les voyages soient... Bon, c'est assez facile, parce que dans le milieu du trekking, bon, globalement, on ne laisse pas trop de traces. Mais bon, quand même, il y a des manières de faire qui sont plus respectueuses. À Lhasa, on va privilégier des aliments sans emballage. On va toujours permettre qu'il y ait de l'eau bouillie sans avoir à acheter des bouteilles d'eau. Enfin, tous ces petits principes-là qui font quand même la différence. Et donc ça, c'est des années à peu près de 2008 à 2012, de 4 ans de focus sur comment un peu en fait réformer l'industrie du tourisme au Tibet avec les agences tibétaines, 100% tibétaines. Et aussi à comment arriver à convaincre les agences internationales qu'elles ont intérêt à travailler en direct avec les gérants d'agences tibétaines et pas les gérants népalais, parce qu'historiquement, c'est ce qui se passait. Voilà, on travaille un peu aussi de formation des gérants d'agences tibétaines pour les aider à, voilà, à devenir plus professionnels au niveau comptabilité, organisation. Donc on les fait venir aussi en Europe. Enfin, voilà, y a beaucoup d'échanges, beaucoup de guides qui viennent en Europe. Chaque année, ils sont formés aux Français, ils viennent voyager en Europe. Et voilà, donc ça me met vraiment un pied dans l'industrie du trekking et de la, même après, trekking et pic, sommet. Puisqu'il y a de plus en plus d'agences qui veulent ouvrir des nouveaux itinéraires. Donc chaque année, moi, en fait, en tant que guide de trekking, je vais de moins en moins au Ladakh, au Bhoutan, au Népal, je reste surtout maintenant au Tibet.
Mais il y a un public européen pour aller faire de la haute montagne du côté tibétain, parce que j'ai l'impression que tout le monde va effectivement au Ladakh, aux Zanskars ou alors au Népal.
Voilà, donc en fait, il a fallu créer cette offre pour qu'il puisse y avoir une demande. Et l'offre, donc ça, c'était la plus belle partie de mon job, c'était d'aller en reconnaissance, en fait, de non seulement de trekking, mais après de sommets, hein, pour ouvrir. Et là, il y avait une multitude de sommets, enfin, des centaines et des centaines de sommets à plus de 600, à 6000 mètres.
Mais donc là, j'ai en face de moi quelqu'un qui a franchi ou qui a gravi des 8000 mètres et plus.
Oui, après, voilà, je me suis, à partir de 2012, enfin, ça a commencé en... Mais mon premier sommet, c'était en 2008, à 6000. Quand j'y sommet, c'est quand j'ai une partie suffisamment importante sur un glacier, plus qu'un col, quoi. C'est-à-dire qu'il faut vraiment monter plusieurs centaines de mètres sur un glacier. Ouais, donc ça, ouais, j'ai commencé entre 2008 et 2012. Et puis en 2012, j'ai vraiment eu un virage complet dans cette direction de la haute montagne, où là... l'offre que je pouvais proposer au niveau trek et sommet, hein, il y avait une dizaine de voyages quand même, avec des sommets qui partaient de 6000 jusqu'à 8848, jusqu'au sommet de l'Everest. Donc j'avais un catalogue et je savais comment m'adresser à une clientèle européenne. J'avais les prix, j'avais aussi des contacts dans les agences européennes pour communiquer sur cette nouvelle offre de voyage. Mais ce qui est le plus intéressant, c'est qu'en fait, l'école de guide de montagne à Lhasa m'a demandé d'intervenir dans leur école en tant que professeur ou formatrice. Non, au début pour l'écologie, après pour l'entrepreneuriat social. Voilà, donc c'était vraiment un acteur clé en fait des métiers de la montagne pour le Tibet. Et je savais que si il y avait une transformation à l'intérieur de cette compagnie des guides, cette compagnie privée, alors on pouvait vraiment transformer toute l'activité de la haute montagne. Parce que il y avait une centaine de guides, une vingtaine de cuisiniers, des caravaniers qui étaient tous de la même famille ou cousins, enfin bref, oui, de la même amie de ces guides. Donc c'était un petit écosystème dans lequel j'avais été invitée pour venir les former. Et en échange, je leur ai dit « Ok, je veux bien vous former à toute cette vision d'entrepreneuriat social appliqué au métier de la montagne. » Mais du coup, vous me formez à la haute montagne. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée à faire des sommets avec eux. D'abord, des hivernales dans le Sichuan, mais vraiment dans des conditions extrêmes où ils nous faisaient grimper sur des échelles. Ça, c'était avec des Chinois, en fait. J'étais sur des camps d'entraînement avec les futurs clients des expéditions pour l'Everest qui venaient se former en hiver sur des sommets au Sichuan, donc à 6000 mètres d'altitude. C'est à l'ouest du Tibet. Non, à l'est, pardon, à l'est du Tibet. Et là, il y avait des cascades de glace, il y avait extrêmement froid, il y avait beaucoup de vent, et puis on nous faisait grimper des échelles pour nous habituer à passer les fameux ressauts sur la face nord de l'Everest, au moment, en fait, pour sortir de l'échelle où c'est un peu technique et il faut s'habituer avec tout l'équipement du masque oxygène, des gros gants, de clipper, déclipper sur la corde fixe.
Mais Marion, pourquoi tu fais tout ça? Donc on a parlé de cette aventure qui était plutôt humanitaire, une aventure professionnelle à travers l'organisation de Trek, l'accueil d'un public européen, tu fais de la haute montagne, mais à la base c'était une quête intérieure, c'était la méditation, c'était la spiritualité, c'était le bouddhisme. Où est-ce qu'elle est cette quête-là à ce moment-là quand tu te lances dans la haute montagne?
Alors, il y a quand même le fil conducteur, c'est quand même sur le plan professionnel, hein, c'est d'accompagner des entreprises tibétaines à devenir plus respectueux de l'environnement et plus proches de leur culture pour la transmettre aussi à leur clientèle. Donc ça, à ce moment-là, c'est un client pour moi en fait, hein, l'école de guides de montagne et la compagnie des guides, mais c'est un client rêvé, c'est-à-dire que je vois l'impact immense que ça peut avoir. Donc quelque part, je me mets à avoir aussi une sorte d'exaltation, on va dire, de comment cette idée d'entrepreneuriat social peut vraiment super bien fonctionner au Tibet, et que s'il y a un modèle, comme par exemple le label Clean Everest, qui fonctionne bien et qui montre en fait une image de un peu de prestige grâce à l'Everest, comment ça cette vision d'entrepreneuriat social peut fonctionner, alors je sais que ça va inspirer de très nombreux autres entrepreneurs tibétains à prendre cette voie. Donc ça, c'était la raison professionnelle. Et la deuxième raison, c'est parce qu'en fait, à ce moment-là, moi, j'aime bien faire des retraites spirituelles de méditation dans les grottes, mais les grottes sont fermées. Elles sont vraiment cadenassées, quoi. Donc je peux plus y retourner. Et je me dis, oh ben, peut-être qu'en très haute altitude, sur les camps comme ça, où il faut rester des semaines, voire des mois pour s'acclimater, ben, je serai tranquille. Et puis comme ça, je pourrais être tranquille dans ma tente, personne ne m'embêtera, et je pourrais faire les longues séances de méditation sur en plus des points de vue magnifiques, où je pourrais regarder à travers la fenêtre de ma tente et avoir juste l'espace et la lumière en face de moi.
Donc ce travail introspectif, ce travail de méditation, elle est toujours présente?
Oui, elle est même de plus en plus, parce que je me rends compte que je me confronte à des milieux de la haute montagne, en fait, avec des...
Peut-être très machiste, beaucoup dans la performance, et pas du tout dans l'ego, finalement, alors qu'avant tu parlais de compassion et de maître, donc c'est vraiment arrêter d'être dans cette notion du jeu et de l'ego pour être complètement tourné vers l'autre, et la haute montagne, c'est tout l'inverse, c'est moins jeu.
C'est exactement ça, c'est un terrain extrêmement glissant pour l'ego. Donc ça veut dire que ça demande une vigilance démultipliée, pour justement se reconnecter à une intention qui sera pas polluée en fait par toute cette pollution intérieure de la compétition, la performance, l'image de soi. Et oui, ça gonfle énormément l'ego en fait, le fait d'aller toujours plus haut, de toujours faire des nouveaux exploits. Donc je me rends compte que c'est un très bon terrain aussi pour moi de justement débusquer tous mes schémas intérieurs qui pollués, qui en fait veulent la même chose que les autres, hein, qui veulent avoir un nom, une image, être aimé par les autres, être vu et reconnu. Donc je peux vraiment aller rencontrer tous ces aspects obscurs de ma personnalité, parce que justement j'ose m'y confronter dans une réalité qui effectivement me pousse à développer ces aspects-là de moi. Donc ça, pour ça, je suis vraiment très reconnaissante que la montagne en fait a été un maître de miroir, en fait, comme je disais, en fait, du maître qui fait l'effet de miroir, mais qui me renvoie en fait dans ce reflet tous les aspects obscurs de ma personnalité qui tout d'un coup là se prenait pour quelqu'un et voulait toujours plus et voilà. Donc quand je suis allée même jusqu'à la troisième ascension au sommet de l'Everest, je venais d'apprendre que ça allait être un record pour les femmes d'avoir gravi trois fois l'Everest en Europe.
Tu es sur l'Everest, donc tu as gravi trois fois l'Everest. Là tu es c'est la partie tibétaine, hein, c'est ça? Donc on peut y accéder par la partie népalaise, mais par la partie tibétaine. C'est deux ascensions différentes.
Voilà. Il y a beaucoup, beaucoup moins de monde sur la partie tibétaine, qui est la face nord, qui est une face presque entièrement rocheuse, très ventée, il n'y a pas de secours. Et c'est beaucoup plus difficile d'obtenir les permis d'ascension. Donc il y a 150, on va dire, alpinistes chaque année qui arrivent à avoir le permis. Et puis il y a un guide par alpiniste qui monte avec eux, donc ça fait maximum, grand maximum 300 par an. Et on a des fenêtres qui sont assez larges, donc on se retrouve jamais à plus de 50, maxi 70, quoi, sur le... Voilà. Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs. Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Ce que je trouve assez incroyable, c'est que l'aventure commence à 16 ans dans les bidonvilles de Calcutta, à observer la misère. Et là, tu te retrouves des années plus tard dans l'Himalaya, puis sur le toit du monde et maintenant sur le sommet de l'Everest. Et tu t'arrêtes pas là, parce que après tu as envie de toujours dans ce souci d'écologie, hein, de réduction de son empreinte, de son impact, hein, donc créer un label Clean My Everest.
Clean Everest, ouais, c'est l'école de guide de montagne, hein, quand ils m'ont fait venir donc en 2012, et puis après en 2013 sur l'Everest avec eux pour faire un diagnostic des problèmes de pollution sur cette montagne en particulier, puis après aussi sur d'autres montagnes des 8000 au Tibet. Que donc ensemble à l'école de montagne, on a réfléchi à une charte environnementale entre 2013 et 2016. Donc j'ai fait intervenir des tas d'experts en fait tibétains sur la culture tibétaine pour montrer comment en fait la culture et la préservation de l'environnement n'étaient pas séparées dans la vision bouddhiste et tibétaine de la montagne et la vision de l'homme en harmonie avec la nature. Et ces différents intervenants, étrangers aussi et tibétains, ont permis donc d'inspirer et d'impulser un mouvement en fait de protection donc de la montagne, de garder l'Everest pur, avec sous la forme donc d'une charte environnementale qui est devenue après le label Clean Everest. Donc le label, c'est parce que ça nous permettait en fait de non seulement proposer ces grandes lignes de la charte à toutes les expéditions internationales qui venaient, mais aussi après de les auditer et d'avoir un contrôle continu et d'impliquer après des autorités locales et des guides tibétains qui vont tous les ans sur la montagne.
Sur la table, un bouquin, Respire, tu es vivante, de Lhasa à l'Everest, une aventure écologique et spirituelle. Donc ça, ce bouquin, j'imagine qu'il est, mais il a été écrit ici, à ton retour du Tibet.
Ouais, c'est ça. J'avais beaucoup de mal à écrire ce livre en étant à Lhasa. Et effectivement, là, dès que je suis arrivée ici en Suisse, je me suis réfugiée dans un chalet dans la montagne. Et j'ai fini d'écrire en quelques mois ce livre qui a été publié en octobre 2020.
Donc ce bouquin reprend un peu toute cette aventure que tu viens de nous livrer dans le micro, hein. On y parle de ton aventure familiale à 16 ans, ce contexte dans lequel tu as grandi, puis ce premier voyage à Calcutta, cette quête spirituelle, ces années passées en tant que retraite, nonne, bouddhiste, auprès du maître Boka Rinpoche, pour finalement te retrouver au Tibet. À œuvrer pour la population nomade tout en organisant des treks pour les occidentaux pour finalement devenir alpiniste, t'impliquer sur cette cause écologique et revenir ici sur le lac. Tu lèves le doigt, j'oublie quoi?
Oui, en fait, je voudrais quand même aussi boucler mon parcours de vie au Tibet sur la question des nomades, parce qu'en fait, le grand projet qui m'anime aujourd'hui, c'est pas les déchets sur l'Everest, c'est la création d'un institut des nomades qui a pris naissance en 2013 et qui aujourd'hui maintenant est bien établi. Depuis 2019-2020, il est entièrement construit, il est déjà en activité. C'est un lieu donc dans le Shinghai, le Tibet du nord-est, où il y a énormément de nomades qui vivent là. Et c'est un lieu qui a été choisi parce qu'il y a une grande liberté au niveau culturel et écologique. Donc c'est une sorte d'incubateur, hein, à la fois pour les entrepreneurs tibétains nomades qui veulent garder les savoirs traditionnels en ayant des apports scientifiques qui leur permettent aussi de valider un certain nombre de bonnes pratiques de leur vie nomade, pasteur nomade sur la steppe. et voilà, de transmettre toute cette connaissance aux générations futures pour pas justement que ce mode de vie nomade soit complètement dilué dans la modernité.
Marion, merci, je te laisse, je sais que tu as du boulot qui suit, mais en tout cas merci, le bouquin Respire, tu es vivante, publié Masso, aux éditions Masso, pour revenir un petit peu sur cette aventure un peu hors norme où tu auras passé finalement plus de temps à l'international qu'en France quasiment.
Ouais, là j'ai 41 ans et effectivement j'ai passé 22 ans au Tibet essentiellement, mais à Darjeeling.
Merci Marion.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Partageons les couleurs et les différences.
Voir, entendre,
sentir,
toucher.
Regarde ailleurs. Partageons les couleurs et les différences.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.